France Musique. Sous la couverture, Philippe Venturini, France Musique.
Bonjour, il y a un siècle, le 16 décembre 1921, très exactement, disparaissait à Alger Camille Saint-Saëns. La Bibliothèque nationale de France et l'Opéra national de Paris lui consacrent une exposition qui se tiendra du 5 mars au 20 juin. Pour approcher Saint-Saëns, souvent vu comme un barbu sévère, avec le sourire, je vous propose de parcourir une collection de quelques 80 caricatures réunies et dûment présentées par Stéphane Leteret, mon invité. Au piano, parmi ses pairs, sur le dos d'un dromadaire ou athlétique comme Samson, le musicien mis en scène se raconte autant qu'il parle de son époque. Croquer Saint-Saëns, une histoire de la représentation des musiciens par la caricature, de Stéphane Leteret, publié chez Actes Sud, Palazzetto Bruzzane. Michel Boussineau au violon, l'Orchestre National de France, dirigé par Georges Prêtre. C'était un extrait de la danse macabre de Camille Saint-Saëns. Bonjour Stéphane Leteret.
Bonjour.
Vous êtes agrégé d'histoire-géographie, docteur en musicologie, auteur de nombreux ouvrages et articles sur Camille Saint-Saëns. Donc vous venez d'écrire pour cette coédition Actes Sud, Palazzetto Bruzzane, ce recueil de, je crois c'est 78, hein, très exactement, caricatures de Saint-Saëns, glanées dans la presse de l'époque. Il faut rappeler donc que Saint-Saëns a une longévité assez remarquable, hein, né en 1835 à Paris et mort à Alger, j'ai dit, donc il y a un siècle. En 1921, est-ce que par rapport à ses contemporains, à d'autres compositeurs, Saint-Saëns a été un de ceux qui a été les plus caricaturés? Est-ce que le fait d'être caricaturé, c'est évidemment synonyme de grande notoriété?
Oui, absolument. La caricature est à la fois un témoignage de cette célébrité et puis un moteur de cette célébrité, puisque elle est un document qui fait plonger Saint-Saëns, qui est l'incarnation d'une élite artistique dans la cité et dans une popularité donc suppose donc une large diffusion de ses images. Il est caricaturé comme bien d'autres et comme tous les autres compositeurs de son époque, mais sans doute un peu plus que d'autres, parce qu'il est mêlé à beaucoup de problématiques qui sont celles de la Troisième République. Il est très engagé, il est par excellence l'artiste dans la cité, le musicien dans la cité républicaine, et cela lui vaut d'être très portraituré.
Alors j'imagine évidemment, Stéphane Lautoré, que vous avez fait une sélection de ces caricatures qui sont ensuite classées par thème dans votre livre. Comment s'est opérée cette sélection? Est-ce que vous avez choisi, parce que votre sélection brasse une grande partie de la presse française, mais également étrangère, portugaise, espagnole, argentine, je crois, si j'ai bonne mémoire.
Alors j'avais au départ une centaine de caricatures, une centaine d'exemples. J'ai trouvé que certains exemples en répétaient d'autres, et il était intéressant d'aborder les caricatures pour dire à chaque fois quelque chose de différent et de nouveau au sujet de chacune d'entre elles. Il est vrai ensuite que j'étais très tributaire d'un certain nombre de fonds, ceux qu'il y a à Dieppe, bien entendu, et qui sont répartis entre les collections du Château-Musée et celles de la médiathèque Jean Renoir.
Vous dites anciens. Bien entendu, c'est peut-être pas bien entendu pour tout le monde, peut-être faut-il expliquer pourquoi.
Oui, le château conserve donc un certain nombre d'archives et d'objets en particulier qui ont trait à Saint-Saëns, hein, et puis les fonds anciens de la médiathèque Jean Renoir, eux, contiennent donc notamment les 12 900 lettres de la correspondance passive, mais aussi les fameux dossiers Bonnereau, qui sont des dossiers réalisés par le secrétaire de Saint-Saëns à la fin de sa vie et qui regroupent un nombre de documents absolument incroyables. Et on tombe de temps en temps, peut-être trop rarement, mais de temps en temps sur quelques pépites. J'ai également été tributaire des fonds que l'on a à la Bibliothèque nationale de France dans ses divers départements, et notamment du fonds Taurel, puisque cet homme a été au début du XXe siècle un grand amateur et collectionneur d'objets et de documents qui concernaient Saint-Saëns. Donc, à partir de là, bien entendu, l'outil Internet a été extrêmement utile pour accéder à des documents que je n'aurais pas trouvés dans ces fonds parisiens ou diepois.
Et alors, quand on opère une sélection, évidemment, on a une idée directrice. Vous vouliez présenter plusieurs aspects, j'imagine, évidemment, de la personnalité et de la place que Camille Saint-Saëns occupait en son temps dans la société.
Ces thèmes n'ont pas été un a priori, même si du fait que cela fait maintenant 15 ans que je fréquente le personnage, je savais à peu près quelles étaient les thématiques que j'allais rencontrer donc dans mon cheminement, problématiques liées bien sûr au voyage, liées à l'exécution même de la musique, comme on va sans doute le revoir. Ce sont mes fonds qui ont déterminé les thèmes. Les thèmes n'ont pas été a priori. C'est le corpus des caricatures qui a déterminé donc a posteriori mes thèmes.
Il ne faut pas, si ce rendez-vous cache un péril, être pris cependant pour un âge. Je veux voir. C'est bien vous, madame, que j'attends. Si j'en crois ce billet et l'heure qu'il indique.
Moi-même, êtes-vous prêt à braver un danger?
Madame, t'interroge et c'est moi qui réplique. Pardon, c'est moi d'abord qui veux interroger. Bon, il faut m'entendre encore. Je vous dis qu'il le faut.
Monsieur!
Ni lui, ni moi ne savons qui vous êtes. Tu l'ignores, n'est-il pas vrai?
Sur l'honneur!
Réfléchis, si tu veux, tu m'arrêtes. Fais un signe et je pars.
Madame, c'est l'ordonne qu'elle parle. J'obéirai.
Bernard Richter dans le rôle d'Ascanio, Carina Gauvin dans celui de la Duchesse des Tempes et Jean-François Lapointe dans celui de Benvenuto Cellini. L'orchestre de la Haute École de Musique de Genève, tous dirigés par Guillaume Tournière. C'était un extrait d'Ascanio de Camille Saint-Saëns. Stéphane Leteret, cet opéra Ascanio est aujourd'hui une rareté, il faut le reconnaître. Je crois qu'il y a un seul enregistrement intégral, récent qui plus est, celui qu'on vient d'entendre. À l'époque de Saint-Saëns, c'était au contraire une œuvre plutôt connue d'ailleurs. Le personnage ou les allusions à cet opéra Ascanio reviennent assez fréquemment dans ses caricatures. L'œuvre la plus représentative étant évidemment la danse macabre qu'on a entendue en ouverture.
Oui, beaucoup de caricatures, en effet, font référence à une œuvre. Ces œuvres sont en général donc les plus célèbres, mais ce sont des œuvres qui sont en lien avec l'actualité de Saint-Saëns. Autrement dit, lors de la création de tel ou tel opéra, on va donc trouver des caricatures où Saint-Saëns est le plus souvent réincarné, pour ne pas dire travesti ou déguisé dans l'un de ses personnages.
J'ai fait allusion à Samson tout à l'heure, effectivement, on le voit en compositeur bodybuildé avec une grosse tête et un corps d'athlète.
Oui, bien que chauve par ailleurs. Oui. Justement, la caricature, elle mise sur tous ces effets comiques et sur tous ces paradoxes, sur cette part en fait de peut-être de mensonge, en tout cas de réinterprétation, qui donc attribue à Saint-Saëns des traits qui nous permettent de le reconnaître, mais qui sont bien entendu une fantaisie iconographique. C'est tout l'intérêt et c'est tout le côté jubilatoire de la caricature.
Alors justement, dans la caricature, il y a aussi donc une allusion plus ou moins bienveillante à la personne qui est caricaturée, mais aussi au contexte, aussi bien culturel que politique.
Oui, le contexte politique, il ressort en particulier pour les caricatures qui datent de la Première Guerre mondiale, puisque la participation de Saint-Saëns à l'effort de guerre est telle que on va le représenter jouant donc de l'orgue, cette danse macabre, mais c'est une danse macabre qui, en pleine guerre, est une danse macabre pour l'Allemagne, et les petits squelettes qui sortent donc de l'instrument, si on regarde de très près, ils ont des casques à pointe, et puis il y a la représentation donc métaphorique de l'Allemagne en cage. Donc le contexte peut être aussi, notamment chez Léandre, ce dessinateur extraordinaire à la 19e siècle, la caricature est aussi donc chez lui l'évocation d'un autre contexte tel que celui de la guerre entre la Russie et le Japon au début du 20e siècle, qui stupéfait une partie de l'opinion en Occident, puisque au fond ces deux puissances culturelles sont des modèles pour les Occidentaux, et de voir ces deux puissances s'affronter paraît insupportable à un certain nombre d'artistes.
Mmh. Et il y a la figure de Wagner qui revient quand même assez fréquemment pour hanter ou taquiner Camille Saint-Saëns.
Et oui,
Stéphane Leteret.
Et oui, bien sûr, la caricature de Friedrich Gretz est particulièrement méchante, puisque elle est, je dirais, une sorte d'entreprise de diabolisation de Saint-Saëns, dont la couleur de peau est d'ailleurs bien noircie dans cette caricature, opposée à la blancheur.
Caricature allemande,
d'un
journal
de
berlinois,
oui,
c'est ça.
Oui, tout à fait. Mmh. Et cette caricature d'un journal par ailleurs connu pour son antisémitisme, est une manière évidemment de s'attaquer à Saint-Saëns dans le contexte notamment donc de 1886, où son rapport à l'opinion allemande est largement entamé par ce qu'il a pu dire des œuvres de Wagner et des limites qu'il considère aux œuvres de Wagner. Donc, Saint-Saëns est mal accueilli lors de sa tournée en Allemagne en 1886, et puis il y a cette fameuse affaire Lohengrin à laquelle il est indirectement mêlé, mais qui, fait que l'accueil en Allemagne est plutôt hostile.
Et à telle enseigne que donc vous faisiez allusion, Stéphane Leteret, à la Première Guerre mondiale. Durant cette guerre, Saint-Saëns estime qu'il ne faut plus jouer donc de musique allemande.
Absolument. L'Allemagne va devenir la bête noire de Saint-Saëns, qui est extrêmement choqué par un certain nombre de choses. D'abord, la destruction du patrimoine français, et on pense bien entendu à la cathédrale de Reims. Il est extrêmement choqué également par toutes les exactions que l'on sait, que l'on connaît, et qui à l'époque sont bien sûr largement développées et exagérées par la presse, à savoir donc de tout ce que la population française peut subir de cette occupation allemande. Il n'y a pas que l'occupation de la Seconde Guerre mondiale. Et puis, Saint-Saëns veut en quelque sorte prendre sa revanche sur le répertoire allemand. N'oublions pas que dès 1870-71, il a été donc favorable à une sorte de favoritisme patriotique, lui qui considère qu'il faut favoriser les compositeurs français. Ça vaut d'ailleurs une sorte, je dirais, d'affaire Dreyfus au sein des musiciens et des musicologues de l'époque, hein, de refuser la musique allemande. C'est évidemment quelque chose qui tranche et qui engendre un clivage très profond.
Un peu, mais ça a plus d'un siècle. C'était l'orchestre des concerts Colonne, dirigé par Édouard Colonne, vraisemblablement en 1908. C'était la danse de la gitane, extraite d'Henri VIII et de Camille Saint-Saëns. Stéphane Lotteré, ce choix à la fois pour illustrer cet opéra de Camille Saint-Saëns, Henri VIII, aujourd'hui également une œuvre oublié, qui figure très souvent quand même dans cette anthologie de caricatures que vous nous proposez, et puis également Édouard Colonne, contemporain donc de Saint-Saëns, qui apparaît sur une des caricatures.
Oui, une caricature de 1907 où on voit Saint-Saëns en compagnie de Louis Diemer qui exécute le scherzo pour deux pianos, et d'ailleurs cette caricature où donc le chef d'orchestre est derrière ces deux grands pianos à queue qui ressemblent plutôt à des cercueils à mon sens, eh bien tiens sa baguette de la main gauche alors qu'il était droitier, donc ça fait partie au fond des petites inexactitudes bien sympathiques de la caricature.
Alors cette musique, on va dire exotique pour schématiser, illustre également l'intérêt de Camille Saint-Saëns pour les musiques, on va dire peut-être extra-européennes, notamment nord-africaines. Il a fait de nombreux séjours en Algérie, il mourra, je l'ai dit en introduction, en 1921 à Alger. Et vous rappelez, Stéphane Lotteré, que Camille Saint-Saëns, s'il était hostile un temps à l'Allemagne, s'intéressait vraiment à cette musique nord-africaine.
Le tropisme méditerranéen est extrêmement prégnant chez Saint-Saëns. Dès lors que, pour des raisons de santé, il est obligé, pour des raisons donc pulmonaires, d'aller vers des climats plus chauds, italiens, égyptiens ou algériens, donc méditerranéens, il va, et bien entendu, être au contact d'une altérité donc musicale qui est pour lui l'occasion d'entendre, d'apprendre. C'est aussi, ne l'oublions pas, un voyage dans le temps pour Saint-Saëns, qui est persuadé que d'aller en Méditerranée, est une manière de remonter dans le temps. C'est une manière aussi donc d'être au contact de quelques survivances de la musique ancienne, telle que la musique de l'Antiquité. Donc du coup, l'orientalisme est extrêmement important chez Saint-Saëns. Il se déclarait, non pas dans le sens chronologique du terme, mais en ordre d'importance, premier orientaliste français hein, sur le plan musical. Donc Saint-Saëns est souvent au contact de cette altérité. Il s'en imprègne. Son contact à l'autre, et notamment donc à cette culture musicale arabo-andalouse, ne fait pas de Saint-Saëns un ethnomusicologue hein, pour autant. Hein.
Mais il témoigne quand même d'un intérêt réel et non pas seulement une sorte de curiosité parce que c'est exotique.
Oui, absolument. Saint-Saëns a toujours, on va dire, porte toujours sur la musique comme sur tous les centres d'intérêt qui sont les siens, un regard extrêmement scientifique. Et Saint-Saëns est à la fois donc historien et se veut également très intéressé par tous les vestiges archéologiques. Et du coup, pour lui, d'entendre cette musique différente, c'est aussi une sorte d'archéologie musicale qui se joue devant lui. Il va au contact de musiciens, il va au contact de lieux de sociabilité où il va pouvoir entendre cette musique, notamment donc en Algérie.
Et Saint-Saëns, grand voyageur, vous le rappelez, il a fait quoi, plus de 240 voyages, c'est ça, en plus de 60 ans, quelque chose comme ça, c'est
oui,
ça.
Oui, alors il faut absolument distinguer, je dirais, les séjours des voyages, sachant qu'évidemment, un voyage révèle le plus souvent chez lui donc plusieurs séjours, donc 179 voyages pour environ 245 séjours à l'étranger, sans compter bien entendu ce qu'il effectue à l'intérieur de l'Hexagone. De le suivre est absolument stupéfiant. Sa mobilité est incroyable et elle est de plus en plus importante au fur et à mesure de sa vie. Donc c'est quelqu'un qui, plus il vieillit, plus il va être avec ses valises quelque part dans le monde.
C'est aussi bien le pianiste et le compositeur qui voyage.
Oui, et le chef d'orchestre, ainsi ouais. que l'auteur, à savoir que Saint-Saëns est extrêmement présent lors des répétitions, notamment de ses ouvrages lyriques. Donc, son œil et son oreille, du coup, sont extrêmement attentifs à la manière dont on le joue.
Le chœur régional Vitoria d'Île-de-France, l'Orchestre national d'Île-de-France, tous sous la direction de Jacques Mercier. C'était un extrait du Déluge de Camille Saint-Saëns. Stéphane Le Torella, à nouveau, le Déluge, une œuvre qui apparaît souvent dans ses caricatures, une œuvre totalement oublié, j'ai quand même envie de dire aujourd'hui, qu'on n'entend jamais au concert, ce qui est bien dommage. Vraiment une très très belle œuvre de Saint-Saëns. On a quand même tendance, je l'ai dit en introduction, à voir en Saint-Saëns le vieux compositeur barbu, un peu grincheux et plutôt réactionnaire, lui qui était plutôt révolutionnaire dans sa jeunesse. Qu'en est-il au niveau de la caricature ?
Eh bien, ces éléments de vieillesse, ces éléments, on va dire, physiques, sont extrêmement repris par la caricature, qui le représente avec cette barbe plus ou moins abondante, selon les auteurs, avec ce crâne, donc, qui est, selon d'ailleurs les théories du XIXe siècle, un symbole d'intelligence. On pense notamment à Victor Hugo et ce front démesuré. Du coup, cette manière de représenter Saint-Saëns, cette caricaturisation de Saint-Saëns, mise en fait sur cette dimension donc du vieil homme. J'ai envie de vous dire que Saint-Saëns a plus longtemps été vieux que jeune, tout simplement parce que cette longévité qui est à la fois donc biologique mais aussi artistique, créatrice, l'a mis au contact au début du XXe siècle de plusieurs générations bien plus jeunes que lui et qu'il a parfois vu disparaître. Saint-Saëns, c'est le musicien qui voit presque tout le monde disparaître. Hein. Oui. Donc c'est un survivant du XIXe siècle, a fortiori après la Première Guerre mondiale.
Et d'un point de vue artistique, on a l'impression que justement le passage au XXe siècle l'a un peu perturbé et il devient un peu réactionnaire dans ses goûts.
On peut le dire, oui, bien entendu. Ce conservatisme, il l'assume parfaitement. C'est d'ailleurs quelqu'un qui n'a pas peur de la polémique. On le sait en réaction à un certain nombre d'évolutions musicales, en particulier lorsque ces évolutions viennent de la culture donc austro-allemande, bien entendu.
On y revient. Oui.
Et oui. Quand bien même, il faut souligner que Saint-Saëns a été à l'école de l'Allemagne, qu'il a été un grand admirateur de la première école romaine. Romantique allemande. N'oublions pas que Saint-Saëns n'est jamais autant allé en Allemagne qu'après la défaite de 1870. Donc on est toujours dans la nuance chez Saint-Saëns, et cette longue vie peut nous faire dire des choses contradictoires selon simplement l'époque à laquelle on se réfère.
Est-ce que vous avez l'impression, Stéphane Lauteret, que une sorte de redécouverte de Camille Saint-Saëns depuis, j'ai envie de dire, depuis une vingtaine d'années, c'est un compositeur sur lequel les musicologues se penchent à nouveau?
Oui, on est en train de redécouvrir Saint-Saëns. On voit une multiplication des enregistrements, mais aussi donc des ouvrages. Dès les années 2000, vers 2003, il me semble, les anglo-saxons commencent à produire donc des catalogues bibliographiques, hein, d'ouvrages qui ont trait à Saint-Saëns. Le regard est renouvelé. Il est en particulier grâce à Marie-Gabrielle Sauret qui s'investit dans l'édition donc de la correspondance et des écrits de Saint-Saëns. Pour ma part, j'essaie d'apporter un regard plus contextuel et qui situe Saint-Saëns dans les grandes problématiques de son époque.
Et également à l'étranger, des musicologues étrangers s'intéressent aussi beaucoup à Camille Saint-Saëns.
Oui, bien entendu. Alors donc en particulier donc les musicologues allemands et les musicologues donc anglo-saxons. On peut penser à Michael Stigmann qui entreprend à l'aide de toute une équipe bien sûr un travail donc d'édition des œuvres de Saint-Saëns en plusieurs dizaines de volumes. C'est une entreprise absolument monumentale.
Très bien, merci beaucoup Stéphane Lauteret. Je rappelle le titre de votre ouvrage qui vient de paraître aux éditions Actes Sud de Palazzetto Bruzzane, Croquer Saint-Saëns, une histoire de la représentation du musicien par la caricature. Il y avait aujourd'hui à la réalisation Jean-Claude Mullet, à la technique Jean Frédérics, attaché de production Annick Aumier. La semaine prochaine, je serai en compagnie de Louis Delpech et nous évoquerons la musique française dans l'Allemagne au tournant des 17e et 18e siècles. D'ici là, excellente journée et excellente semaine à l'écoute de France Musique.
À réécouter sur francemusique.fr.